Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans Chefs-d'œuvre en réserve, une série inédite conçue avec l'Acmé Productions. Créé pour meubler les palais officiels de la République, le mobilier national n'a rien d'une institution poussiéreuse, bien au contraire. Avec pas moins de 100 000 objets dans sa collection, il est un kaléidoscope géant de la modernité à travers l'histoire. Collaborant toujours avec les designers et les décorateurs les plus inventifs de leur temps, l'institution reste aussi la garante de savoir-faire exceptionnels dans le domaine des métiers d'art français. Elle est leur vitrine, dans l'Hexagone, comme à l'étranger. Située en plein cœur du 13e arrondissement parisien, le Mobilier National est une ville dans la ville. Nous y avons rendez-vous pour une balade dans le temps à la découverte de trésors signés André-Charles Boulle ou Pierre Paulin. Pour nous guider aujourd'hui, Gérald Rémy, Lucille Montagne et Marie-Hélène Bersani, inspecteurs et inspectrices du mobilier, ainsi que Julienne Sang, adjointe de l'atelier de restauration des tapis. Tous ont accepté de nous faire découvrir cette fascinante institution. Avanti! Bonjour Gérald, merci de nous accueillir.
C'est un plaisir.
Voilà, alors c'est ici, dans cette cour, que tout a commencé, on peut dire ça?
C'est exact. En fait, nous sommes un peu comme dans une réalisation théâtrale. Nous sommes du côté jardin de l'enclos des Gobelins, où a été construit ce bâtiment des frères Perret pour le mobilier national.
Et Gérald, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette institution vénérable?
Nous sommes vraiment le digne héritier du garde-meuble, un garde-meuble qui peut être à la fois royal sous les rois, impérial sous les empereurs et républicain sous la présidence de la République. Nous sommes là pour meubler l'ensemble des palais, donc l'ensemble des grands corps constitués, les ambassades, pour montrer ces arts décoratifs, ce savoir-vivre à la française qui est vraiment emblématique de notre pays. Sur ce lieu va s'installer des manufactures de tapisserie qui vont être installées pour contrecarrer donc la puissance textile de l'Est et du Nord de l'Europe, pour créer des véritables manufactures françaises et mettre en avant le style et les arts décoratifs français.
Donc, quelles sont aujourd'hui les institutions qui composent, en fait, le mobilier
national ? Le mobilier national, eh bien, vous avez en premier lieu, bien sûr, ce mobilier national. Et autour se sont greffés, au fur et à mesure du XXe siècle, toutes les grandes manufactures de tapis et de tapisserie, comme la manufacture des Gobelins, la manufacture de Beauvais et la manufacture de la Savonnerie pour les tapis. Nous sommes un établissement pluriséculaire, mais nous sommes très modernes, c'est-à-dire que nous achetons toujours, nous créons toujours, et nos collections continuent de s'accroître.
Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte, quand même, malgré tout, de conservatoire de ces savoir-faire ?
Totalement, puisqu'on travaille souvent à l'ancienne, tout en essayant d'élaborer des techniques pour correspondre à notre 21e siècle.
Et ces artisans qui, finalement, sont dévoués à l'institution pendant toute leur existence, ont un savoir-faire totalement unique, c'est presque des trésors vivants, en fait.
C'est presque ça, oui. Et c'est vraiment une transmission. On passe d'une génération à une autre génération, on arrive à transmettre donc ces points, ces techniques, depuis le 17e jusqu'au 21e siècle.
Alors maintenant, nous allons nous diriger vers la genèse, le début de la collection,
voilà,
vers donc un objet particulier,
oui,
que vous allez nous faire découvrir.
Voilà. Qui est le cartonnier d'André-Charles Boulle, une des premières pièces de nos collections.
Eh bien, on vous suit.
Allons-y.
Gérald, où est-ce que vous nous avez emmenés ?
Dans une réserve qui nous tient particulièrement à cœur, puisque vous êtes dans le centre névralgique du mobilier national, dans la grande réserve Perret, où sont conservées toutes nos plus prestigieuses collections. Tout autour de cette pièce, vous avez un ensemble de sièges, de mobilier, qui représentent vraiment une histoire des arts mobiliers depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Et dans cette immense cathédrale, vous avez non seulement ces collections, mais aussi toutes les activités du mobilier national.
Alors vous preniez l'expression que je trouve tout à fait juste. En fait, on se trouverait dans une cathédrale.
Oui.
C'est exactement ça.
Oui.
Racontez-nous, alors on voit ces étagères immenses et tous ces meubles qui sont les uns à côté des autres, comme des personnages d'ailleurs, recouverts de plastique.
Nous sommes quand même dans un lieu patrimonial, donc il faut conserver ces collections. Et c'est pour ça que toutes sont houssées, donc pour les protéger à la fois de la lumière, de la poussière, de tout ce qui pourrait atteindre leur intégrité. Mais ce qui est formidable, c'est que lorsque vous soulevez leur jupe, vous avez un éblouissement fabuleux. C'est magnifique.
Alors, vous nous parliez tout à l'heure de ce cartonnier.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous le montrer ?
Eh bien, nous allons cheminer vers le cartonnier, puisqu'il est juste là. C'est lui qui commence donc ce circuit historique pour le mobilier national. Un cartonnier, eh bien, en fait, c'est simplement un meuble de rangement qui était un accessoire installé auprès d'un bureau. Et ce cartonnier que vous avez là, donc, avait été créé par André-Charles Boulle au tout début du XVIIIe siècle.
Alors, vous nous parliez de son créateur, André-Charles Boulle, qui est un nom connu en France.
Oui.
Alors, bien sûr, il y a une école Boulle,
oui.
Et c'est un nom maintenant célèbre. C'était
oui.
Sans doute une star à l'époque.
Une star qui coûtait très cher. Hein.
Ah,
c'était,
oui,
oui, oui, oui. Les meubles Boulle, du fait de leur complexité, puisque vous avez à la fois donc l'emploi de bois particulièrement précieux comme l'ébène, mais aussi toute une technique d'incrustation de laiton, des cailles de tortue aussi sur les côtés, des matières qui étaient précieuses, riches, rares, mais qui donnaient un résultat, c'est vraiment le summum des arts décoratifs.
Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai Boulle d'un faux Boulle ?
Le style Boulle a duré vraiment depuis la fin du XVIIe, début du XVIIIe, jusque à peu près au début du XXe siècle. Mais là, petit à petit, les sculptures s'affadissent. On passe de l'ébène au bois noirci. Tout va sur l'économie. Vous n'êtes plus sur des commanditaires royaux, c'est-à-dire qu'on va aller vers la simplification. Et c'est grâce, par exemple, au fait de voir ces bronzes finement ciselés que l'on peut reconnaître la valeur d'un meuble et la valeur d'un meuble d'André-Charles Boulle encore plus.
Et est-ce que c'est un chef-d'œuvre que vous prêtez ?
Ça nous arrive.
Oui. Dans quel
Ça cas, nous arrive dans, quel cas, dans le cadre d'une exposition.
D'accord.
Ce genre de meuble particulièrement patrimonial ne sort plus en dépôt. C'est-à-dire que même si le Premier ministre ou même le Président de la République souhaitait avoir ce meuble, on essaierait de le dissuader pour une raison en fait de conservation.
Conservation. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez été confronté à des situations de demande de prêt totalement fantaisistes ou inouïes ou voilà ?
Ce n'est pas sur ces meubles que se fixe surtout l'attention, c'est sur d'autres meubles plus historiques, souvent des bureaux, qui ont appartenu à des personnalités politiques, et nos politiques actuelles essaient toujours d'avoir un mobilier déjà historique pour se rattacher donc à une personnalité.
Vous avez un exemple ?
La première ministre actuelle travaille toujours sur le bureau de Léon Blum.
Avec l'idée peut-être que l'âme de la personnalité
vienne
l'inspirer.
Voilà.
Et bien justement, à propos de personnalités illustres, je crois que vous avez décidé de nous guider vers un objet qui a appartenu à une personne très illustre, voire illustrissime.
Et qui aurait pu être encore beaucoup plus illustre, puisque c'est le roi de Rome, fils de Napoléon Ier.
Alors on vous suit, découvrir cette merveille.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Je crois que c'est une merveille. Alors, nous voici donc devant... C'est un trône.
C'est un trône, c'est un fauteuil de représentation. Car vous êtes dans les appartements, en fait, du roi de Rome. Vous êtes dans le pavillon de Marsan, aux Tuileries. Ce petit bonhomme de à peine 2 ans va être installé donc, dans ce pavillon. On va lui créer un appartement. Qui dit prince impérial, dit mobilier d'étiquette. Donc il va falloir 2 sièges de représentation pour l'empereur et l'impératrice lorsqu'ils viennent voir leur fils.
Est-ce que vous pouvez justement nous le décrire? Parce qu'en effet, il y a des caractéristiques presque
Là, vous êtes sur un grand siège sculpté en bois doré où vous avez tous les symboles donc de l'Empire avec les aigles sur le bas du dossier. Ce grand dossier circulaire où vous avez cette couronne de laurier.
Comment on peut qualifier ce style impérial ?
C'est un retour à l'antique. C'est vraiment, on reprend les thématiques antiques. Bien sûr, on les modernise, mais c'est pour rappeler toujours cet héritage de l'Empire romain.
Mais quand Napoléon arrive, il trouve quoi ? Il trouve un garde de meuble royal plein ?
Non, vide.
Pourquoi ?
Vide, puisque la Révolution est passée par là.
Oui.
Toutes les collections, bien sûr, des anciens rois donc, de France, une grande partie a été vendue.
Et l'histoire, la relation entre Napoléon et le mobilier national, à partir du moment où il trouve en fait finalement des salles vides, oui. Ça s'articule comment alors ?
Napoléon est un souverain moderne, donc il veut du moderne. Et donc il va faire appel à des grands décorateurs comme Percier et Fontaine. Ils vont faire appel aussi à des grands noms ébénistes et menuisiers en siège qui vont fournir des ensembles fabuleux donc de mobilier et qui est un fer de lance dans nos collections. Nous avons un fonds empire énorme.
Vous m'aviez dit en aparté qu'il n'y avait pas qu'un siège. En fait, il y avait deux sièges.
Non, vous avez deux sièges de représentation donc pour l'impératrice et pour l'empereur. Et ces sièges ont eu des destinées totalement différentes, puisque l'un des sièges va partir pour une contrée bien lointaine. Il va être proposé et prêté pour le souverain du Maroc pendant le protectorat français. Et lorsque ce protectorat va prendre fin, on ne va pas réclamer le fauteuil. Le fauteuil est toujours dans nos collections, est toujours sur nos inventaires, mais vous pouvez le voir à chaque grand événement marocain, puisque c'est le trône du roi du Maroc.
Alors j'ai l'impression, quand on a pénétré ensemble dans cette réserve, la réserve Perret, qu'il y a une émotion particulière qui s'est emparée de vous, comme si finalement les mobiliers vous parlaient.
C'est totalement vrai. Un meuble, c'est immobile, mais ça parle.
Et comment ça vous parle à vous ?
Eh bien, écoutez, par leur forme, bien sûr, mais aussi par son histoire. Parce que tous les objets que vous avez ici ont une histoire. Et cette histoire, elle peut être retrouvée par des numéros d'inventaire, par des marques qui sont sous ces meubles. Et lorsque vous avez commencé à décrypter ces marques, eh bien, c'est formidable parce que ces mobiliers vous parlent et vous racontent ce qu'ils ont connu, les personnages qu'ils ont connus et l'histoire à laquelle ils ont participé.
Écoutez, Gérald, merci beaucoup de cette visite.
Merci beaucoup.
Comme je vous l'ai déjà dit, le site du Mobilier National est une véritable petite ville qui s'étend sur 3 hectares. Alors, maintenant que nous venons de quitter Gérald Rémy, dirigeons-nous vers l'un des autres cœurs battants de cette institution, l'atelier de restauration des tapis. Nous allons y rejoindre Julienne Sang, l'adjointe à l'atelier. Il paraît qu'elle travaille en ce moment sur une pièce unique qui vaut le détour. Bonjour Julienne.
Bonjour, bienvenue.
Je crois que vous avez un miraculé à nous présenter.
Exactement. C'est le tapis de Notre-Dame qui a été créé par la manufacture exprès justement pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
À quelle époque ?
En 1825.
Alors là, on se trouve dans l'atelier et on voit donc une immense texture qui est par terre.
Exactement.
Et le long des tables. Alors, c'est ça le tapis ?
Exactement.
C'est une partie seulement ?
C'est une partie.
Il fait combien de mètres ?
Alors pour tout vous dire, il fait 25 mètres de long. Sous vos yeux, ce n'est que la première partie.
D'accord, qui est la partie haute.
Exactement, qui va dans le cœur.
Dans le cœur. Donc là, on voit un certain nombre de vos collègues qui sont attablés, en train de reprendre le tapis. Ce qui frappe tout de suite, hein, c'est au-delà de sa taille, c'est les couleurs chatoyantes. C'est vraiment.
Exactement. Là. Vous avez comme des fleurons, mais avec des diamants, et comme de la pierre taillée. Vous avez des feuilles d'acanthe, des motifs floraux. Vous avez des raisins. Pour aussi rappeler la passion du Christ, des choses comme ça.
Alors, est-ce qu'on peut faire un tour du tapis, qui est comme une espèce de continent à découvrir ? C'est un voyage, hein ?
Oui, oui.
On vous suit autour du tapis. C'est un tapis qui, à une certaine époque, a été transformé, vous m'avez dit tout à l'heure ?
Exactement. Sous la monarchie de Juillet, ils ont remplacé les fleurs de lys par des fleurons, tout simple. Et surtout, dans le médaillon central, ils ont remplacé les 3 fleurs de lys stylisées par une rosace toute simple en imitation bois doré.
Donc dans quelles circonstances ce tapis arrive à l'atelier de restauration ?
Suite à l'incendie de Notre-Dame en 2019, il a été légèrement humidifié à cause de l'eau apportée par les pompiers pour éteindre l'incendie. Et il fallait le sortir pour qu'il soit sauvé.
Mais moi, j'étais à Notre-Dame, comme tous les Parisiens, tous les Français, et je ne l'ai jamais vu.
Eh bien, parce qu'il le sort très, très peu de son caisson.
Et pourquoi ?
Parce qu'en fait, il est monumental. Il faudrait des moyens humains, donc financiers, pour pouvoir le sortir. Il faut surtout un événement spécial.
Oui.
Donc, il y a eu quelques événements spéciaux pour la venue du pape dans les années 80.
Oui.
Et pour le premier Noël télévisé aussi, en 1948, il a été sorti aussi à cette occasion.
Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes ont été mobilisées pour réaliser une œuvre comme ça ?
Déjà, il a été créé en 8 ans. Ça, c'est incroyable. 200 mètres carrés de velours, point par point. À part quelques prénoms qu'on a vus sur des registres, on ne sait pas combien y a-t-il de personnes qui ont travaillé là-dessus.
Et vous, par exemple, vous vous sentez dépositaire, en fait, de cet incroyable savoir-faire qui a été transmis de génération en génération ?
D'une certaine façon, oui. On a été formés justement pour pouvoir continuer à transmettre, parce que c'est une de nos missions principales.
Combien de temps il va falloir pour restaurer cette œuvre ?
Nous avons environ jusqu'à fin 2024.
D'accord.
Voilà.
Mais Julienne, merci de nous avoir fait découvrir ce miraculé qui est bien vivant et qui est un objet vraiment d'admiration extraordinaire.
Merci d'avoir pris le temps de faire découvrir ce tapis exceptionnel.
Laissons derrière nous l'atelier de restauration pour continuer notre voyage à travers les collections. Direction l'atelier de recherche et de création. Lucille Montagne, inspectrice des collections contemporaines, nous y attend de pied ferme. Eh bien, ça s'accélère. On enjambe allègrement les siècles et nous allons directement vers la modernité. Bonjour Lucille, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, et vous ?
Très bien, merci. Donc on va pénétrer dans cet endroit qui est l'atelier de recherche et de création, où vous allez nous expliquer ce salon que nous découvrons avec vous. Alors il y a 4 chaises absolument magnifiques, Quelles sont ces chaises ?
Alors, ce sont quatre chaises qui ont été conçues par Pierre Paulin en 1971 pour l'aménagement de la salle à manger de l'Élysée, les appartements privés qui ont été conçus pour Pompidou.
Et qui était ce Paulin ? Parce que...
Alors, Pierre Paulin était alors un jeune designer qui a été sollicité par la présidence. Georges Pompidou était venu visiter quelques années avant le Mobilier National et s'était dit intéressé par le fait de faire travailler l'atelier de recherche et de création, qui est un atelier fondé en 1964, qui conçoit des meubles à partir de prototypes de designers. L'idée pour le président était donc de faire entrer la modernité au sein du palais de l'Élysée.
Ce qui est merveilleux, c'est que Paulin, qui à l'époque était un jeune designer, a eu cette chance de pouvoir concevoir, en fait, là on voit ces quatre chaises que vous allez nous décrire, mais en fait une œuvre totale, c'est-à-dire qu'il a décoré le palais présidentiel d'un certain nombre de meubles qui étaient des meubles pour tous les jours, en fait. Hein.
Georges Pompidou demande l'aménagement en 1971 de quatre pièces des appartements privés. Une première antichambre qui est conçue par l'artiste Yaakov Agam, qui est un artiste israélien, qui lui fait une chambre pleine de couleurs. Et ensuite, trois autres pièces conçues par Pierre Paulin, une salle à manger, un fumoir et un salon des tableaux.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose, peut-être sacrilège, je ne sais pas, c'est-à-dire s'asseoir sur les sièges?
Alors vous avez de la chance, ce n'est absolument pas sacrilège, nous sommes au Mobilier National,
oui.
Les meubles sont conçus pour un usage, nous pouvons donc avec plaisir.
Alors allons-y, bah, c'est quand même un rêve de pouvoir s'asseoir sur le mobilier qui est à l'Élysée. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire ces chaises, parce qu'elles sont tout à fait originales, dans leur conception, mais même j'ai l'impression dans le matériau qui est utilisé?
Alors, ce sont quatre chaises qui sont réalisées avec un piétement et un dossier en aluminium fondu et recouvert d'une petite galette en mousse garnie de daim. Ce piétement en aluminium est recouvert d'une peinture Nextel, qui est une peinture qui avait été utilisée dans les cabines Apollo. Donc, on est vraiment dans la modernité complète. Donc, la fonte d'aluminium, qui est une technique qui était également récente, qui permet des formes assez souples et rondes que l'on retrouve sur ces chaises, qui sont vraiment signes de ce design des années 60-70 avec des formes très organiques, très rondes. Ici, ces chaises pour la salle à manger sont justement conçues pour épouser votre corps et vous rendre une assise tout à fait confortable.
Et on voit, on est très bien dedans.
Exactement.
On a envie de rester l'après-midi. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive plus exactement cette révolution de palais ? C'est-à-dire le fait que tout d'un coup, dans le palais présidentiel, on introduit cette modernité, pas seulement sur certains objets un peu liges, mais sur un ensemble de décors.
Alors là, c'est vraiment un petit peu une volonté du président de faire entrer la modernité. Il sait qu'il a à sa disposition le Mobilier National et l'atelier de recherche et de création. Il est donc libre de pouvoir choisir ses aménagements. Et surtout, alors il le fait dans des appartements qui sont certes privés, mais qui permettaient d'accueillir des hôtes assez prestigieux, qui permettaient aussi de montrer toute la modernité de la création française. L'idée, c'est que... Le Mobilier National ameuble les grandes institutions, l'Élysée, les ambassades, les ministères, et a cette fonction de représentation, d'où ce soutien à la création contemporaine, à la création française.
Et est-ce que finalement cette idée a été suivie par les autres pensionnaires de l'Élysée ? Est-ce que c'est toujours là, cette idée de faire appel à l'atelier de recherche et de création pour créer une vitrine contemporaine finalement de l'esthétique française et de ses savoir-faire ?
Alors, les différents pensionnaires ont effectivement continué à aménager un petit peu selon leur goût. Valérie Giscard d'Estaing a fait enlever une bonne partie du mobilier Paulin qui était installé. Seule la salle à manger est restée en place. Mais par la suite, d'autres présidents ont souhaité faire des aménagements spécifiques. Les Mitterrand, notamment, ont fait travailler différents designers comme Philippe Starck, Annie Tribel, Jean-Michel Villemotte, Ronald Cécile Sport, etc. pour avoir à nouveau des commandes spécifiques. Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait acquérir également des pièces et travaille à moderniser le palais de l'Élysée. Il souhaite vraiment pouvoir intégrer complètement le contemporain dans cette demeure finalement assez ancienne, qui mêle toujours de l'ancien et du contemporain, mais pour ses fonctions de représentation, décide de faire parler un petit peu la jeune création, la création contemporaine, à son plus haut niveau.
Alors je crois que maintenant nous allons nous diriger vers une table mystérieuse où il paraît qu'on prend des décisions importantes.
Tout à fait.
Allons-y.
Allons-y.
Alors, puisque nous sommes dans les mystères, nous n'allons pas tout à fait découvrir la table. Nous allons découvrir des éléments d'ensemble du mobilier pour le Conseil des ministres, qui a été souvent résumé par la table du Conseil des ministres. Mais oui. vous imaginez bien qu'on prévoit également des sièges, un ensemble de luminaires et des petits meubles, etc. adjacents. Se trouvent encore dans nos réserves quelques chaises et luminaires qui ont été conçues un petit peu en plus, la table étant aujourd'hui à l'Élysée.
Alors racontez-nous cette table. Quel moment elle est conçue, par qui, comment elle se présente, décrivez-la nous.
Alors c'est une table qui a une histoire un petit peu particulière puisque c'est le résultat du premier prix Mobilier National Jeune Création qui a été conçu en 2020. Donc ce prix a été décerné à 4 lauréats pour un des projets, Julien Ross, Étienne Borde, Missia Moreau et Lucille Pousse. Ce sont des étudiants de 5 écoles différentes de design parisiennes qui ont été sollicités, des étudiants en dernière année, pour imaginer cette nouvelle table du Conseil des ministres. Oh. Il y a eu un cahier des charges pour réaliser une table qui soit modulable. Alors c'est très important puisqu'en fait le Conseil des ministres n'a pas toujours lieu au même endroit au sein du palais de l'Élysée. Il peut avoir lieu.
On ne savait pas. Voilà. On voit toujours les photos de télévision. On a l'impression que c'est le même endroit. Et ben non.
À l'Élysée, on parlait souvent du Conseil des ministres, qui est quand même un lieu important pour la prise de décision, une instance importante. Mais finalement, la table qui était utilisée était simplement des tréteaux avec des planches recouvertes d'une nappe verte. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce besoin de changer assez systématiquement le système, de changer le nombre de places, etc. Et en fait, il y a une différence selon ces lieux. Il peut y avoir un nombre de ministres plus ou moins important pour ce Conseil des ministres. Et donc là, la table demandée allait de 20 à 40 personnes. Son nom, c'est Médula.
Comme la moelle.
Médula, oui. C'est comme la moelle. Parce qu'en fait, la table reprend un petit peu ce système de moelle épinière. Elle est constituée de différents modules qui peuvent s'assembler.
Est-ce qu'on peut imaginer cette expérience qui était très réussie, puisqu'elle aboutit à cette table modulaire, va être renouvelée pour d'autres mobiliers, éventuellement avec d'autres designers ?
Alors, on l'espère. Pour l'Élysée, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres commandes spécifiques, mais nous avons d'autres partenariats. L'atelier de recherche et de création travaille pour la réalisation d'une banquette d'accueil pour le ministère de la Culture, avec le designer Arnaud Lapierre. Et on a également d'autres partenariats pour des institutions publiques, qui sont aussi un des soucis du mobilier national actuellement, c'est de ne pas uniquement faire des créations pour les ministères et les ambassades, mais aussi pour le public. On a comme ça fait en 1970 un lit d'hôpital avec Alain Richard. L'atelier de recherche et de création a également fait un berceau dans les années 70 également.
Et donc, c'est vous qui allez vers ces institutions ou c'est ces institutions qui viennent vers vous en vous demandant de collaborer, de développer de nouveaux?
Alors en général, c'est assez double. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des ministères qui nous sollicitent et parfois, c'est nous qui allons aussi vers les ministères, les institutions publiques pour leur dire que nous avons un atelier de recherche et de création qui peut créer pour eux. Cet atelier qui fonctionne sur des fonds publics est là véritablement pour ça, pour pouvoir travailler à la conception, à la création, l'inventivité en design et servir à la fois à la représentation de la France à l'étranger dans des grands lieux officiels, mais à la création en design pour chaque citoyen.
Moi, ce que j'aime dans cet épisode, je vais vous l'avouer, c'est qu'on a commencé très classique. Et puis, au fur et à mesure, on enjambe les siècles. Ça devient de plus en plus ébouriffant. Là, on a été au cœur de la création. Et puis maintenant, on va... Il y a un vent de folie qui s'empare de nous, puisqu'on va directement vers les aliénés découvrir un projet quand même dément. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette partie de création du mobilier national.
Je vous en prie, c'était avec plaisir. Bonne visite des aliénés.
Merci. Derrière le titre équivoque des aliénés se dissimule un programme de valorisation des collections de l'ancien garde-meuble royal. Pour en savoir plus, prenons l'ascenseur pour rejoindre Marie-Hélène Bersani, inspectrice des collections. Donc, nous retrouvons Marie-Hélène Bersani, qui est inspectrice et responsable des collections, une collection tout à fait particulière dont elle va nous parler. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous recevoir.
Je vous en prie, je vais ouvrir la caverne d'Ali Baba. Où vous pourrez admirer un certain nombre de chefs-d'œuvre et une collection un peu folle.
Ah, ben ça, j'aime bien. Quand ça décoiffe, j'aime bien. Alors Manène, qu'est-ce que c'est que ce projet complètement fou des aliénés? Racontez-nous.
Alors, les aliénés sont nés d'une idée en lien avec le développement durable. Donc on a cherché dans nos collections des objets qui sont modestes, qui sont démodés aujourd'hui, dont la restauration coûterait plus cher que ce qu'ils valent. Donc il y a une commission qui se réunit régulièrement et qui, ce qu'on appelle, déclasse des objets pour les sortir des collections nationales. En fait, aliénés, souvent on confond avec le terme de fou, mais ça vient du latin qui veut dire rendre autre et qui donc voulait dire détacher ou vendre. Donc ces objets sont déclassés par une commission et l'idée c'était de leur redonner une seconde vie, un nouveau regard avec ce que nous sommes aujourd'hui et donc de confier différents objets aliénés déclassés à des artistes.
Alors, vous voulez nous montrer ces œuvres? On les voit devant nous, qui sont protégées par des plastiques.
Exactement. Je vous montre particulièrement cette pièce. Elle est tout à fait, à mon sens, exceptionnelle. Elle est d'un jeune artiste, Geoffrey Hillerot, qui est designer. On lui a confié deux lampadaires en bronze doré, tout simple.
Quelle époque?
1950-60. Oui. C'est ce qu'on appelle du tout venant, en fait, comme mobilier. Il y en avait 12 lampadaires identiques qui ont servi essentiellement à l'Élysée dans des pièces annexes, secondaires. Et puis aujourd'hui, ce genre de choses n'est plus du tout à la mode. En fait, cet artiste se considère comme un ingénieur
oui.
qui serait tout d'un coup tombé sur une autre planète.
C'est un peu le cas, on voit. Hein.
Voilà. Et il décide de fabriquer des objets comme un ingénieur qui vont lui rappeler ses souvenirs de la Terre et ses souvenirs essentiellement d'enfance. Donc, je vais vous le déballer un peu pour que vous voyez à quel point. Hop là.
Alors, ce qu'on voit à travers le plastique, c'est le fluo.
Le plastique, hein. Voilà,
fluo,
c'est ça. Là. Donc, en fait, il a habillé le fût de bronze doré avec tout un tas de petites pièces en plexiglas, qu'il a découpé au laser et il a fabriqué une véritable fusée. Donc, si vous voulez, en fait, c'est comme si vous vous retrouviez devant la fusée.
La fusée de Tintin.
De Tintin, fabriquée oui. par le professeur Tournesol.
D'accord, c'est ça.
Oui. Et c'est.
C'est beau, c'est très beau. Hein.
Alors, donc, le fût est habillé avec du plexiglas. C'est vraiment comme un travail de mécano, en fait. Et on est vraiment dans un souvenir d'enfance ludique aussi. Quel est le petit garçon qui n'a pas joué à faire ou des Lego ou du mécano pour construire quelque chose.
Je confirme.
Mais dans un esprit de rêve. On part du matériel vers quelque chose de ludique et l'imaginaire, vraiment le rêve. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a appelé, il y en a deux, puisque c'était une paire de lampadaires, Sputnik 1 et Sputnik 2, ce qui a fait beaucoup rêver. Aller sur la Lune, c'était quand même le rêve de beaucoup.
Mais en fait, une fois que l'artiste a apporté son regard, son travail, de déclasser, elles sont reclassées
alors, alors
oui.
À partir du moment où il y a intervention d'un artiste, tout d'un coup, ça devient une nouvelle œuvre. C'est la même, mais ça devient autre chose. C'est une co-création. Donc, dans ces cas-là, on va de nouveau le prendre à l'inventaire, mais sous un autre numéro, et il va de nouveau rentrer dans les collections.
Quand vous rentrez dans les réserves, Maïlène, qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui vous fait battre le cœur?
Ce ne sont pas les réserves qui me font battre le cœur.
Oui.
C'est de voir les techniciens au travail. C'est le geste.
Oui.
C'est le savoir-faire. Une technique qui peut être réduite à une machine. Quand vous faites quelque chose, même si le geste a l'air mécanique, j'allais dire parce que répétitif, vous y mettez un peu de vous-même, de votre âme. Si un jour vous êtes très heureux, si un jour vous êtes énervé, vous n'allez pas travailler de la même manière. Et ça va s'en ressentir sur l'objet tel qu'il sera réalisé, quel qu'il soit. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain qui est derrière, le savoir-faire, l'imaginaire de la personne.
Marie-Hélène, merci beaucoup de votre accueil. Je ne pouvais pas imaginer qu'une institution séculaire comme ça se lance dans des projets aussi fous.
Eh bien, merci à vous d'éclairer cette collection des aliénés.
Vous aussi, amis auditeurs, découvrez les nouveaux aliénés dans le cadre d'une grande et belle exposition qui ouvrira à l'automne 2023 au Mobilier National. D'écouter le podcast Chefs-d'œuvre en réserve. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous. Chef-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acmé Production, développée en collaboration avec le Mobilier National. D'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le Bolloc-Salama. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Docourteau. Mixage, Ben Auriel. À bientôt.